Bonsoir Rôle d'Avignon, on vous retrouve demain. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques.
Ce soir, Yasmine Youssi et Frédéric Bonnet se font face. À notre affiche, Laure Kruger, une photographe en exil. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. La collection Bilaran, qui présente une nouvelle exposition, c'est au Silo, à Marine, dans le Val d'Oise. On évoquera aussi plus rapidement l'exposition rétrospective de Karl André à la Hamburger Bahnhof de Berlin, et puis une rétrospective également, celle de Giacometti au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat au Maroc. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des places de cinéma pour le film John From de Jean Nicolao, sorti aujourd'hui dans les salles. Enfin, nous avons rendez-vous avec le comédien et metteur en scène Michel Faux, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle découverte féminine, encore une fois une photographe, réellement une découverte, pas une redécouverte, avec Laure Kruger, à laquelle le musée d'art et d'histoire du judaïsme consacre donc une exposition. En 2008, Iria Kratke recueille des témoignages de personnes liées aux brigades internationales qui combattirent en Espagne. Et c'est comme ça qu'elle rend visite à une vieille dame, traductrice de livres, qui à l'époque a 93 ans. Et dans son appartement de Berlin, il y a une vieille valise et quelques dizaines de tirages photographiques. On est donc chez Laure Kruger, qui entre 1934 et 1944 a fait œuvre de photographe en France, en Espagne, à New York. C'est dans le quartier de Charlottenburg qu'a eu lieu la première étape de l'exposition qui a révélé le travail de Laure Kruger, décédée entre-temps. Cette exposition actuellement visible au musée d'art et d'histoire du judaïsme, Nicolas Feuilly en est le commissaire, dans une scénographie d'Alice Geoffroy qui présente les photos de Laure Kruger selon les lieux où elles ont été prises. Il faut expliquer avant tout, Yasmine Youssi, le parcours très particulier de cette femme. Il faut signaler qu'il y a hors série un album Télérama, hein, voilà. Pas de conflit, trop d'intérêt, mais enfin bon, c'est comme ça, ça vous a passionné cette histoire.
Ça m'a passionné.
Mais on le sent à vous lire. Hein.
Ouais, vraiment, quand le musée d'art et d'histoire, quand on a rencontré les gens du musée d'art et d'histoire du judaïsme pour parler de cette exposition, j'ai tout de suite été embarquée par cette histoire.
Vous aimez les parcours de vie comme
ouais.
Ça. Hein.
Oui, oui, ça c'est vraiment ce qui me passionne le plus.
Il faut dire que celui-là est quand même assez exceptionnel.
Celui-là est assez exceptionnel et celui-là est assez emblématique de tous ces exils, en fait, d'anti-nazis, juifs pour la plupart, qui ont quitté l'Allemagne pour fuir Hitler. Laure Kruger, elle est partie très très vite. Elle est née à Magdebourg. Elle est d'une famille assez aisée. Son père est ingénieur, en fait, dans une usine. Il lui offre pour ses 10 ans un appareil photo. Elle se trouve un petit boulot ils sont d'abord, il faut dire que la crise de 29 va les prendre de plein fouet, que son père va se retrouver au chômage et pour aider ses parents, elle trouve un boulot de sténodactylo, si ma mémoire est bonne, ou de secrétaire dans une banque, dont on lui demande de partir en 1933 après que Hitler et les nazis soient arrivés au pouvoir. Là, elle comprend très vite qu'elle a aucun avenir en Allemagne et toute la famille s'en va. Elle part d'abord à Londres comme jeune fille au pair. Elle aimerait y rester et faire des photos, mais les Anglais refusent de lui délivrer un visa, une carte de séjour. Donc, elle
oui,
retrouve...
en tant qu'allemande, c'est la même histoire que Zweig et que d'autres.
Absolument. Là, on n'est encore que en 33. Oui. Hein. Il y a encore des relations... Donc elle est obligée de partir, elle rejoint ses parents en Espagne, ses parents se sont installés à Majorque, elle abandonne pas l'idée de la photo pour autant, elle va à Barcelone auprès d'un Autrichien qui fait des cartes postales pour apprendre le métier, et puis on lui propose de venir à Paris pour suivre des cours de Florence Henry, et là elle comprend tout de suite que c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas, il faut pas passer à côté. Et effectivement, elle vient à Paris et elle suit les cours de Florence Henry, on voit d'ailleurs très bien dans l'exposition, parce que c'est une exposition qui est très très bien conçue parce que à travers les villes par lesquelles elle passe, on voit aussi l'évolution de son travail. Et puis présenter les photos par série comme ça, c'est très intéressant. Ça a encore plus de force. Et donc à Paris, elle va venir à Paris. Elle va étudier avec Florence Henry. Elle va rester là. Elle va rencontrer son mari, qui a été dans les brigades internationales, parce que très vite, la politique prend le dessus sur l'art. C'est-à-dire qu'elle le dit elle-même, hein, c'est ce qui compte pour elle. Donc toute cette communauté allemande exilée qui s'organise, elle habite elle-même dans un immeuble où il y a Arthur Koestler, je crois, et Walter Benjamin.
Oui, ce qui est pas mal comme voisin.
Elle travaillait toute la nuit.
Quand il se faisait couler le bain, c'est qu'il allait se coucher.
Elle sait qu'il va se coucher. Il y a aussi des médecins, une entraide qui est très très forte, une université allemande libre à laquelle elle assiste aux cours, je crois, du mari d'Anna Segers. Et elle se politise comme ça. Enfin, c'est vraiment ce qui prend le dessus. Et elle fait aussi bien des reportages que des portraits pour gagner sa vie. On la retrouve ensuite, au moment de l'occupation, au moment de la drôle de guerre, elle est internée, elle est emprisonnée à Gurs, elle arrive à s'en échapper. Et elle rêve de filer vers le Mexique, puisque le Mexique est le seul pays qui accueille les réfugiés espagnols, les communistes à bras ouverts, contrairement à ce que nous on a réussi à faire ici en accueillant les réfugiés vraiment. Et elle part pour le Mexique, elle réussit à obtenir les visas, à monter dans un bateau, sauf qu'il est arrêté par des Hollandais dans les Antilles et qu'elle se retrouve finalement à New York. Voilà, là, elle va recommencer.
Encore.
Oui. Voilà, elle va passer toute la guerre à New York, participer à une revue justement antifasciste, et puis retourner. Elle est avec sa sœur, avec son mari. À la fin de la guerre, pour sa sœur, il est hors de question de rentrer en Allemagne. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec l'Allemagne. Pour Laure Krüger, qui était très très politisé, c'est l'inverse. Elle dit que justement, pour reconstruire l'Allemagne nouvelle, si c'est pas les antifascistes qui le font, qui va le faire? Et elle s'installe à Berlin-Est. Mais elle ne peut plus photographier parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Je crois que c'est une diphtérie qu'elle a attrapée. Et elle abandonne la photo. Finalement, elle n'aura travaillé que 10 ans, de 1934 à 1944. Et elle devient traductrice des plus grands auteurs. Oui. Elle avait un don pour les langues. Hein. Elle avait vraiment un don pour les langues. Et c'était aussi une très très bonne photographe. C'est-à-dire que c'est pas qu'un destin qu'on voit là. C'est une très très bonne photographe qui maîtrise à la perfection tous les codes, tout le vocabulaire de l'avant-garde des années 30, l'avant-garde photographique des années 30. Ça, elle le maîtrise très très bien. Elle va toucher à tout. Et ce qui moi m'a beaucoup touchée aussi dans cette exposition, c'est qu'on voit le plaisir qu'elle prend à travailler en chambre noire. C'est tout ce à quoi elle s'essaye. Elle fait aussi bien, elle touche aussi bien au reportage qu'au portrait, qu'au paysage, qu'au rayogramme, au photogramme. Plein d'expérimentations, on le voit très très bien.
Bon, après cette bio-express, je reviendrai vers vous, Yasmine. Parlons de ce que l'on voit dans le musée, Frédéric Bonnet, et de ces photos de Laure Krüger.
Oui, c'est une découverte intéressante, mais en effet, le travail est un petit peu éclipsé par la biographie assez exceptionnelle du personnage. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en visitant l'exposition. Bon, déjà parce que l'œuvre, effectivement, est courte dans le temps, 10 ans, 1934-1944, et qu'elle est courte aussi en nombre. Je crois qu'il reste une centaine de clichés, guère plus, voilà. Oui. Je ne sais pas combien il y en a qui sont accrochés là, mais en gros, il doit y avoir...
Je pense que l'essentiel, d'après ce que j'ai compris, l'essentiel est là, les meilleures photos sont là.
L'essentiel du corpus est là, donc c'est un travail qui est très resserré et que j'ai trouvé plastiquement d'une valeur assez inégale. J'y ai trouvé des choses très intéressantes, j'y ai trouvé des choses beaucoup plus convenues. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce parcours-là, et ça, l'exposition le montre très très bien, c'est comment le déplacement géographique induit une autre perception de la photographie et induit une modification constante de sa pratique. Mmh. Vous regardez ce qu'elle a fait en Espagne, ça ne ressemble en rien à ce qu'elle a pu faire en France, qui ne ressemble encore en rien à ce qu'elle a pu faire aux États-Unis. Mmh. Et ça c'est assez frappant et c'est très bien mis en valeur par l'exposition. Après, effectivement, il y a des tout ne m'a pas passionné visuellement parlant dans l'exposition. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est quand on sent l'élève de Florence Henry, où effectivement elle travaille non pas sur des natures mortes, parce que ça, la nature morte, c'est ce qui m'a vraiment le plus ennuyé dans l'exposition. Quand elle photographie des assiettes de fruits, des tasses à café, ça ne m'apporte absolument rien. Et j'ai vraiment pas trouvé ça du tout intéressant. Par contre, quand elle aborde un registre beaucoup plus abstrait, je l'ai trouvé beaucoup plus percutante, voire parfois même mordante. Le travail de photogramme aussi est très très intéressant en jouant avec la lumière et avec le liseré et la forme des objets, parce que là on est vraiment dans une recherche qui essaye de se frotter à l'avant-garde, qui est la raison pour laquelle elle est venue à Paris, parce que quand on lui propose de venir travailler avec Florence Henry, elle sait très bien à qui elle a affaire, et donc c'est qu'elle avait envie d'approcher ces avant-gardes-là, et je trouve que ce travail abstrait, ce travail du photogramme, les jeux de lumière, les jeux de texture sont très intéressants. Il y a aussi cette très belle série de 1935 autour d'un masque africain qui est mis en situation de plusieurs manières, que je trouve assez intéressante. Et puis, il y a un travail, mais là encore, le personnage du coup est rendu très touchant, qui est beaucoup plus politique, mais qui plastiquement est beaucoup moins intéressant. Quand elle va se frotter à la rue, quand elle va se fronter aux aléas du quotidien, quand elle va se fronter à la misère, elle en sort des clichés qui sont tout à fait bien, mais on sent parfaitement son empathie vis-à-vis du sujet, même quand elle va photographier les pèlerinages au Sainte-Marie de la Mer. Mais je trouve que ce registre-là est quand même plastiquement beaucoup moins intéressant, même s'il est intéressant en tant que tel, parce que on sent le parcours d'une femme qui, effectivement, quand vous disiez, Yasmine, que la politique c'était ce qui primait sur le tout, on le sent complètement, jusqu'à cette salle finale effectuée à New York, où une partie de ce qui est montré là, ce sont des portraits de toute l'intelligentsia exilée à New York à ce moment-là, et des gens qui participent à cette revue The German American, qui s'est targuée et a raison d'être la première revue antifasciste publiée aux États-Unis. Et donc tout ça est évidemment très très intéressant.
Mais c'est vrai que je partage assez votre sentiment d'inégalité de la production, ce qui est assez normal, parce qu'on voit quelqu'un qui apprend en même temps. Vous dites, elle maîtrise tous les codes, disons qu'elle les apprend. Parfois, elle les applique.
Les natures mortes, je suis tout.
Voilà, elle les applique parfois en bon élève, mais sans génie particulier. Et en même temps, c'est vrai que ces déplacements géographiques, ça est comme un révélateur aussi des différentes écoles et des différentes tentatives qu'il y a dans les différents coins du monde à ce moment-là. Yasmine,
c'est exactement ça. Alors, effectivement, toutes les natures mortes, les compotiers, les coupes aux fruits qui sont très sensuels, mais là on est encore dans la veine de Florence Henry. On voit qu'elle fait ses gammes, Vraiment, elle apprend, elle fait ses gammes. Et puis, petit à petit, elle s'émancipe de Florence Henry, et elle s'émancipe notamment en allant vers l'humain ou en réintroduisant de l'humain dans ses photos. Elle s'émancipe aussi dans ses paysages qui sont très, très géométriques. Ils sont magnifiques, hein, les paysages qu'elle fait en Espagne, notamment à Majorque, qui sont très, très beaux. Là aussi, il y a un paysage notamment avec un pêcheur, avec ses filets et... les filets recomposent le paysage d'un point de vue géométrique, c'est très beau. Mais c'est effectivement aussi, quand vous dites que c'est moins intéressant la partie d'un point de vue plastique sur Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on est dans la photographie humaniste. C'est les prémices de la photographie humaniste. Et je trouve qu'elle réussit quand même à en sortir quelque chose qui nous rapproche presque de la photographie américaine. Dans ce sens où, quand par exemple, elle photographie ce père avec son enfant, le père est magnifique, mais c'est un homme d'une beauté, et il tient dans ses bras un enfant. En fait, l'enfant est complètement difforme, l'enfant est handicapé. Et quand vous voyez ça, vous avez vraiment l'impression que ça annonce aussi la photographie subjective américaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est on regarde aussi la vie telle qu'elle est, mais avec de l'empathie, mais sans se voiler le visage. Il y a des photos comme ça dans ce reportage qui sont très très fortes. À New York, vous le voyez, alors là, les photos sont de moins bonne qualité. Par exemple, les premières photos qu'elle certaines paysages qu'elle fait ou des vues de fenêtres qu'elle fait de New York, on croirait que c'est du Bérénice Abbott. Enfin, ça fait immédiatement penser à Bérénice Abbott. Malheureusement, le tirage n'est pas aussi bon, alors que si vous regardez les tirages parisiens, ils sont exceptionnels, quoi. Et elle les réalisait elle-même. Il n'y a pas une poussière, il n'y a rien. Regardez aussi les cadrages, comment elle colle ses photos sur du papier. C'est vraiment tout. Il y a toute une réflexion derrière qui est passionnante. Et il nous manque aussi quelque chose dont tout le monde parle et qui aurait montré sa manière, en fait, sa capacité à absorber tous les genres et à les faire, c'est des photos qu'elle aurait fait en Espagne, à Majorque, des massacres des franquistes. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu et vraiment, on regrette de ne pas pouvoir le faire parce que c'était une autre corde à son arc. Et là où elle est, moi, où elle me bluffe effectivement, c'est quand elle fait des photogrammes à New York, où avec trois fois rien, vraiment, elle va chercher du lin, elle va chercher, enfin, des graines de lin, elle va chercher un filet à provision, elle va chercher un moule, et elle fait ça dans sa cuisine, elle réalise ça dans sa cuisine. On a presque l'impression, parce qu'à New York il faut bien qu'elle gagne sa vie, donc elle s'installe comme portraitiste, parce que c'est très chic de se faire photographier par quelqu'un qui vient de Paris. Tous ces photogrammes, tout ça ne sont pas vendus, ne sont pas cédés, elle les fait pour elle-même. On a l'impression que c'est presque une manière de changer, enfin, de penser à autre chose et à tout ce qui les tient, quoi. Et ça la maintient aussi. Et effectivement, il y a tous ces portraits pour le German American, le magazine. Alors nous, on ne les connaît pas, ces gens, mais il y a là-dedans l'avocat de Rosa Luxembourg. On voit aussi qu'elle photographie, toujours dans la veine politique, elle photographie un noir américain. Et c'est vrai que pour elle, c'était quelque chose d'inimaginable d'arriver aux États-Unis, d'avoir quitté l'Allemagne nazie et d'arriver aux États-Unis et de se rendre compte qu'il existe une forme de ségrégation tacite et un racisme tacite contre les Noirs. Ça se voit aussi dans ces photos-là. Mais vraiment, la politique prend le dessus. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle n'a pas continué. Il n'y avait pas que des raisons de santé. Quand elle présentait...
Oui, il n'y a pas une nécessité pour elle de s'exprimer, voilà, de cette façon-là. Voilà. Il y a d'autres façons de...
Absolument. Par contre, après, elle faisait la tournée des écoles, d'après ce que j'ai compris. Elle avait vraiment ce travail-là. Elle voulait le montrer pour témoigner, non pas de son travail photographique, de l'avant-garde photographique, mais de ce qu'a été l'Allemagne nazie et l'exil, enfin, son exil et celui de ses semblables, quoi.
Dernier mot, Frédéric Bonnet.
Oui, moi, il y a quand même une chose, là où je l'ai trouvée intéressante, c'est dans une dynamique de l'image qui est assez forte et assez intéressante, parce que même si elle s'est détachée de la distanciation poétique imposée par Florence Henry, hein, qui transporte les objets ordinaires hors de leur réalité, elle dit quand même, à propos de l'enseignement de Florence Henry, elle m'a appris à voir les détails d'une image dans une composition rigoureuse et bien ajustée. Et ce bien ajusté... Oui. je crois que ça amène un bon sens du cadrage qui va insuffler une dynamique à l'image et qui est très très perceptible dans de nombreux cas quand elle travaille le paysage, et notamment cette très jolie série de façades d'immeubles à New York en 1941-42 avec des plongées assez audacieuses, mais même aussi dans certains clichés qu'elle a pu faire à d'autres endroits, on voit quand même que il y a un souci à la fois du cadrage bien ajusté comme elle dit, mais qui est là pour introduire une dynamique dans l'image.
Laura Kruger, donc cette exposition au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme est visible à Paris donc jusqu'au 17 juillet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du Silo, lieu d'exposition privée des collectionneurs Françoise et Jean-Philippe Bilharand. Nous retrouverons avant cela l'invité de la dispute, Michel Faux. Nous évoquerons aussi plus rapidement deux rétrospectives, l'une consacrée à Karl André à Berlin, l'autre à Giacometti à Rabat. Pas encore de rétrospective prévue pour Antoine Guillot, mais ça va venir pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Bonne nouvelle, on a retrouvé un bacon à Londres. C'est la 585e œuvre de l'artiste, précise une brève de Beaux-Arts Magazine. Elle dormait depuis plus de 20 ans dans une collection privée de Londres. La dernière toile de Francis Bacon a donc été retrouvée par l'historien de l'art Martin Harrison alors qu'il travaillait à l'édition du catalogue raisonné de l'artiste, peinte en 1991, un an avant la mort de Bacon. Study of a Bull représente un tour donc en noir et blanc, effacé dans un nuage de poussière. L'œuvre sera exposée pour la première fois au Grimaldi Forum de Monaco en juillet. Elle sera ensuite présentée au musée Guggenheim de Bilbao à partir du 30 septembre. Il arrive donc qu'on retrouve des œuvres, mais bien plus souvent on les égare, notamment en France. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'État a déposé, c'est-à-dire confié pour une longue durée et non prêté pour une exposition temporaire, quelques 430 000 meubles ou œuvres d'art de ses collections dans d'innombrables musées, ambassades, mairies. A-t-il laissé s'évaporer une partie du patrimoine culturel national, s'interroge Yoav Oremiatsky dans Télérama. Pour 22 800 objets recherchés, seuls 251 ont été retrouvés, selon la base de données en ligne Sherlock, oui elle s'appelle Sherlock, alimentée par la commission de récollement des œuvres d'art de l'État. Les mécanismes permettant de pister les œuvres égarées, entre guillemets, ne sont effectivement que depuis le début des années 2000, à la faveur de missions de récollement servant à vérifier la présence et l'état des œuvres. Au Centre National des Arts Plastiques, le CNAP, le constat semble à peine croyable. Sur 55 000 œuvres déposées par cet établissement public du ministère de la Culture, un cinquième s'est volatilisé. Les raisons sont multiples, vol, mais aussi mauvaise documentation des dépôts avant 1860, absence d'informations sur la paternité d'une œuvre, objet fondu sous l'occupation, manque de moyens aussi. Aussi, au CNAP, une dizaine d'enquêteurs sont mobilisés pour terminer le récollement des 55 000 œuvres commencées en 1997. Ce travail ne sera pas terminé avant des années. Quelques Sherlock supplémentaires seraient les bienvenus. Les ministères et administrations ne sont d'ailleurs pas les seuls à utiliser des œuvres pour agrémenter leurs hôtels particuliers. À l'occasion de l'annonce de l'ouverture à la fin de l'année à Paris du Drawing Hotel, dédié au dessin contemporain et relié à un centre d'art privé, le Drawing Lab Paris, Sarah Belmont s'est intéressée pour le Journal des Arts à la façon dont les hôtels de luxe se servent de l'art comme tremplin vers une clientèle sans cesse renouvelée. De manière générale, constate-t-elle, la présence d'œuvres d'art dans les hôtels trahit une forme de coquetterie. Qu'il s'agisse de croûtes ou de chefs-d'œuvre, ces pièces ont a priori une fonction décorative. Si la direction du Royal Monceau à Paris se targue d'en avoir accroché du lobby au spa en passant par les chambres, c'est bien pour signifier son intention d'être présentable. D'autres établissements mettent des noms plus cotés en avant. Fier de son Cindy Sherman, l'hôtel du collectionneur, toujours à Paris, l'a accroché en évidence dans son hall d'entrée. Une sélection, parce qu'elle est subjective, transmet un message. Loin de souscrire à l'art pour l'art, les hôtels s'appuient sur leur déco pour tenter de se forger une réputation d'esthète. L'accrochage d'un établissement est censé en illustrer la philosophie. En mêlant classique et contemporain, le George V entend affirmer son ouverture d'esprit. Le groupe se distingue d'ailleurs par son soutien Parisien au travers de son site de vente aux enchères, au Street Art. De son côté, l'hôtel du collectionneur joue la carte Art Déco. La présence dans l'établissement d'une dizaine de pièces mobilières signées de Jacques-Émile Ruhlmann, des frères Martel ou d'Edgar Brandt contribue à forger une identité esthétique haut de gamme. Selon sa valeur, l'art apparaît donc comme un gage de qualité, un indice de luxe. Pour s'assurer que leurs collections sont à la mesure de leurs ambitions, certains hôtels se tournent même vers des experts. Le Parc Hyatt de Chicago a confié à Stacy Boris, ex-conservatrice au Chicago's Museum of Contemporary Art, le soin d'établir un parcours artistique de goût entre ses murs. Mais seul un tableau de Sigmar Polke et des photos urbaines ont été mises en avant. À Lausanne, en Suisse, le Beau Rivage accueille ponctuellement dans le couloir qui mène au bar du rez-de-chaussée les expositions temporaires de son voisin, le musée de l'Élysée. Là encore, c'est la photographie qui est à l'honneur. S'agissant du Royal Monceau, il a créé le poste d'art concierge destiné à une personne capable d'offrir à sa clientèle des programmes artistiques personnalisés. Julie Eugène, qui a travaillé à la galerie Patricia Dorfman, tient actuellement ce rôle de conseillère et médiatrice. Si l'art ne vient pas au client, le client ira à l'art sur les conseils de spécialistes plus ou moins reconnus. Dans le monde du luxe contemporain, l'expérience précède l'essence. Sur le modèle de l'art total, les palaces aspirent à fondre plusieurs domaines d'activité en un, conformément à cette logique dite expérientielle. Aucun client ne devrait avoir envie ou besoin de s'aventurer à l'extérieur. De là, l'ouverture d'espaces exclusivement dévolus à l'art au sein de quelques hôtels. Le groupe Four Seasons pousse le genre encore plus loin. Des audioguides sont distribués à la réception de son hôtel de San Francisco. Les 5 étoiles risquent bientôt de se prendre pour des musées. Et les musées, à l'inverse, pour des hôtels. Car si dormir entouré d'œuvres d'art, c'est chic, le must, c'est de dormir dans une œuvre d'art. Vous en aviez rêvé, l'Art Institute of Chicago l'a fait, lit-on dans Beaux-Arts Magazine. Le célèbre musée a recréé dans ses moindres détails la chambre de Van Gogh à Arles et la loue pour 10 dollars seulement la nuit via le site Airbnb. Un projet, alors il n'y a que 2 personnes qui peuvent dormir dans cette chambre à la fois. Un projet lancé à l'occasion de l'exposition Van Gogh's Bedroom et qui réunissait jusqu'au 10 mai les 3 versions du tableau peintes entre 1888 et 1889. Nous espérons que cela inspirera les visiteurs pour qu'ils réfléchissent différemment à la peinture, précise Amanda Hicks, porte-parole de l'Institut. Et bonne nouvelle, on n'est pas obligé de se couper l'oreille après.
Alors, j'imagine que les réservations sont closes depuis longtemps. Vous voyez, on voit des heures dans les palaces parisiens. Le Bristol vient d'inaugurer, hein, Daniel Buren et Hicham Berada. Ça, c'est bien qu'Hicham Berada soit dans le bar du Bristol, ça me réjouit. Mais ça, c'est de l'image, de la communication, Yasmine aussi.
Oui, c'est de l'image, c'est de la communication. Et puis, il y a aussi le fait que l'art, pour beaucoup de gens, c'est aussi un art de vivre. Ça passe par ce biais-là. Après tout, chacun y goûte comme il veut.
Frédéric Bonnet.
Non, ben l'art est à la mode. Donc à partir du moment où l'art est à la mode, ça ne m'étonne absolument pas que les palaces et les hôtels 5 étoiles s'engouffrent dans la brèche, s'intéressent au sujet. Ceci dit, c'est pas nouveau. Non. Le Carlyle à New York avec quelques suites avec des toiles de maître à l'intérieur, notamment Matisse, et ça depuis très très longtemps. Donc c'est absolument pas une nouveauté. Évidemment, l'art contemporain étant, je me répète, à la mode, c'est des phénomènes qui vont avoir tendance à se développer, à s'intensifier, je crois. Après, pourquoi pas, le coût des audioguides pour visiter les salons.
Il faut que tu aies peut-être raison garder aussi.
Ah, déjà que je les aime pas au musée, les audioguides, alors en plus à l'hôtel, au secours. Je voudrais dormir tranquille.
Enfin, que les gens en profitent. Enfin, pas des audioguides en particulier, parce que je crois quand même qu'il faut pas. Oui, il faut vraiment raison garder, mais que les gens en profitent. Si ça peut faire vivre les artistes, si ça peut aller.
Sauf bien que Roscoe, il avait. Refuser la commande du Four Seasons parce qu'il ne voulait pas accrocher les tableaux à l'endroit qu'il le souhaitait sur le mur, c'est-à-dire assez bas, donc ça n'allait pas avec le décor du restaurant. Donc il y a aussi quand même des artistes.
C'est le Seagram Building, c'était ça.
Il me semble bien, oui. Écoutez, c'est une façon de rencontrer l'art, pourquoi pas, on va dire cela comme ça.
Voilà.
D'autres façons, beaucoup plus traditionnelles, c'est d'aller dans des musées. On peut aller voir 2 rétrospectives d'artistes majeurs dans 2 endroits loin de Paris, Berlin et Rabat. On va commencer par Rabat. hein, avec le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, Yasmine Niossi.
Oui, je voudrais presque plus vous parler du musée lui-même que de la rétrospective Giacometti. Il faut savoir que le secret le mieux gardé du Maroc, je pense que c'est cette ville de Rabat, que les gens ne, par laquelle les gens ne passent pas forcément.
La plus belle,
et qui est la plus belle,
c'est ma ville natale. Tout à l'heure, hein, mais je pensais avant d'avoir cette information essentielle, Yasmine.
Voilà, et donc Rabat a été déclarée ville culturelle du Maroc. Il y a un nombre incalculable de projets qui sont en cours. Enfin, le Maroc a décidé de miser sur la culture, d'abord à un moment où le tourisme est en chute libre avec ce qui se passe, les attentats, la peur des attentats. Donc c'est un autre moyen d'intéresser les gens au Maroc. Et puis, comme le disait le directeur du musée, aujourd'hui, proposer du soleil, ça ne suffit plus. Il y a ça, mais il y a aussi une autre volonté locale qui est à un moment où les islamistes réécrivent complètement l'histoire des pays arabes, de fédérer une nation, un peuple aussi à travers la culture. Ce musée a donc vu le jour. Il a ouvert l'année dernière et la manière dont il est conçu est remarquable. C'est assez, là encore, pour moi, ça a été émouvant de le voir finalement sortir de terre et puis s'imposer. Et c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'au premier étage, vous avez une histoire de la peinture au Maroc de 1905 à nos jours. Et on se rend compte, on chemine comme ça au fil des années et on se rend compte que c'est vraiment avec la génération d'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pas que de la peinture, hein, c'est aussi enfin une histoire de l'art, et on se rend compte que c'est la génération d'aujourd'hui, celle des Leïla Alaoui, des photographes, mais aussi des Binbin, qui arrive à trouver son propre langage. Et qui ne suit pas ce qui se faisait en Occident ou en Orient à tel ou tel moment, mais qui vraiment parle d'elle et arrive à communiquer quelque chose qui lui soit propre. Donc il y a toute cette histoire. Au rez-de-chaussée, vous avez cette magnifique rétrospective Giacometti, dont Catherine Grenier, je crois, est l'une des commissaires, qui est maintenant à la fondation Giacometti. Elle est remarquable parce que c'est une exposition à destination des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Giacometti. Donc on vous raconte Giacometti avec ses œuvres, bien sûr, et on n'a certainement pas fait l'impasse sur ses œuvres, parmi les plus belles, mais aussi des dessins, des sculptures, des plâtres, des photos aussi, pour le resituer. Donc c'est la première fois que Giacometti est présenté en Afrique. Au Maroc, c'est voilà. Et là, c'est pour des gens qui ne le connaissent pas. C'est une manière de s'initier à Giacometti. Et enfin, au sous-sol, il y a une exposition, alors là, qui est passionnante, qui est dédiée à l'école de Tétouan. L'école de Tétouan a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, parce qu'il y a eu des gens comme Younes Rahmoun, dont on a entendu parler. C'était la première école du Maroc, la première école d'art, qui a été construite par les Espagnols en 1938, reconnue par Mohamed V assez récemment, assez vite, avant même un petit peu avant l'indépendance, et qui donne aujourd'hui une génération de plasticiens qui, là encore, ont des choses à dire avec leur propre langage. Voilà, donc là, c'est un coup de zoom sur la création d'aujourd'hui, sur la création marocaine. Et les trois expositions se complètent et elles sont aussi bien à destination des Marocains. Elles parlent aussi bien aux Marocains qu'aux étrangers qui sont en visite. Voilà, moi, je vous encourage vivement à aller découvrir ce musée.
Alors, on a tout l'été pour la rétrospective Giacometti, puisqu'elle dure jusqu'au 4 septembre. L'été dure un peu plus longtemps, officiellement. Donc, pour découvrir ce musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, et en même temps profiter des charmes
innombrables
de cette ville. Non, mais qui a énormément de richesses et de... Je sais pas... Une beauté particulière.
Oui, parce qu'elle a su garder.
Assez peu connue.
Absolument. Elle a su garder tout son charme tout en se modernisant. Mais c'est la seule qui n'a pas subi une espèce d'urbanisme échevelé qui a détruit Casa.
C'est l'anti-Casablanca, de ce point de vue-là.
Oui, absolument.
Bon, là, vous parlez en toute objectivité,
Yasmine.
On aura compris. mais on peut aussi beaucoup aimer, c'est mon cas, beaucoup aimer Berlin et le Hamburger Bahnhof, qui est quand même un lieu exceptionnel où. Semble-t-il, puisqu'on a parlé, on a dit deux mots avant cette émission, il y a une rétrospective exceptionnelle, Frédéric Bonnet, consacrée à un artiste exceptionnel, Karl André.
Carl André, en effet, une exposition véritablement exceptionnelle parce que c'est la première rétrospective mondiale consacrée à Carl André. Et c'est un projet qui a été initié par la DIA Foundation aux États-Unis, donc qui a été présenté dans leur mur, qui arrive en Europe via Berlin et, on ne peut que s'en réjouir, viendra à Paris à l'automne, au mois d'octobre, au Musée d'Art Moderne de la ville. Néanmoins, je pense que faire un saut à Berlin, si on en a la possibilité, ça vaut le coup, justement,
l'espace n'est pas le même,
car l'espace n'est pas le même, qu'il y a quelques œuvres, pas beaucoup, mais il y a quelques œuvres qui sont à Berlin, qui ne seront pas à Paris, notamment des œuvres qui composent une introduction monumentale et phénoménale, je dirais, à l'exposition dans la grande nef de l'ancienne gare, un alignement, un enchaînement parfait, impeccable, de quatre œuvres de périodes différentes qui pose d'entrée tous les principes essentiels de mélange, d'horizontalité, de matériaux bruts, de sculpture comme lieu, de modularité, cher à Carl André, tous sont là, tout est posé comme ça, tout est dit d'entrée, enfin tout n'est pas dit, mais en tout cas les principes sont là dès cette introduction absolument grandiose, et le reste des espaces s'accommode particulièrement bien avec le travail de Carl André, et traverser cette exposition, c'est une pure jubilation parce que on retrouve évidemment tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on aime du travail de Carl André, notamment bon évidemment des pièces horizontales sur lesquelles on peut encore marcher, ce qui est de plus en plus rare.
Volonté de l'artiste, hein, vraiment comme ces dallages au sol.
Oui, mais sauf qu'il y a des collectionneurs qui, à juste titre, s'inquiètent de la conservation de leurs œuvres et autorisent de moins en moins, lorsqu'ils prêtent à des expositions, que l'on puisse effectivement marcher dessus. Là, en l'occurrence, l'autorisation a été donnée pour qu'on puisse
vivre pleinement comme il le souhaitait.
Et surtout, ce qui est remarquablement intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle est pleine de surprises et qu'on y découvre des facettes de Carl André ou des œuvres de Carl André auxquelles, même quand on connaît le sujet, on n'est peut-être pas forcément très habitué. Notamment, il y a des œuvres de jeunesse très intéressantes, en fait avec des aimants au milieu des années 50, ça moi j'avais jamais vu. Il y a toute une grande salle consacrée à ces Dada Objects. Alors ça a été montré en galerie à New York, mais à dos homéopathique. Il y a peu de gens qui connaissent ça. Les Dada Objects, c'est presque des sortes de ready-made, de combinaisons de ready-made, de matinées de surréalisme, des associations d'objets, un ressort de matelas avec une balle de tennis posée dessus, ou une bougie dans un escarpin féminin. Voilà. Et là, il y a toute une série de Dada Objects qui sont exposés, de même que beaucoup de poésie, énormément de travaux textuels, et aussi une œuvre qui est essentielle, qui s'intitule Passeport, qui est un répertoire visuel. C'est des notes visuelles qui ont été rassemblées au début des années 60 par Carl André, et ce sont ses sources, ses influences, ce qui compose son univers. Ça n'a rien à voir avec ce à quoi ressemble son travail, et c'est là, et c'est du coup très intéressant, parce qu'on voit la diversité de ses influences, et finalement ce que ça a pu produire. Et on trouve cette œuvre-là aussi dans l'exposition. Bah, voilà, c'est une exposition exceptionnelle.
Bon, vous avez jusqu'au 18 septembre là, pour aller à Berlin découvrir cette rétrospective Carl André Sculpture as Place au musée Hamburger Bahnhof. Dans quelques minutes, nous irons au Silo, le lieu d'exposition du couple de collectionneurs les Bilarans. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, le comédien et metteur en scène Michel Faux. Toutes les infos sur lui, sur son actualité, sur le site franceculture.fr, à la page de l'invité de la dispute. Enchanteur, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Michel Faux, celles et ceux qui ont eu la chance de voir vos spectacles, ceux que vous mettez en scène, savent, et on en parlait hier soir à propos de l'émission du cinéma, qu'ils ont une identité visuelle toujours très forte. Alors il faut parler de Bernard Faux, décorateur de vos spectacles, mais parler aussi du travail des lumières, des costumes, l'univers esthétique est pour vous une chose extrêmement importante. Vous parliez hier aussi de l'idée de recréer des époques. Quand vous travaillez sur une pièce, alors qu'elle soit de Monterland ou de Molière, est-ce que pour vous ce qui est important c'est d'être dans l'iconographie du temps aussi?
Oui, bien sûr, je me dis toujours comment ça devait être joué à l'époque. Mais c'est pas pour faire de la reconstitution historique, parce que c'est pas ce que je cherche, même si c'est intéressant. Enfin, il y a très peu de gens font ça, mais ça peut être intéressant de faire de la reconstitution historique. Mais j'essaie toujours de partir du cliché ou de l'image d'Épinal, et puis après de la déformer, de la rêver, de la réinterpréter. Mais je trouve ça plus difficile et plus passionnant que d'essayer de le monter de façon sobre ou alors d'essayer de le moderniser ou de le détourner ou de contourner le problème. C'est ce que font les grands metteurs en scène ou les grands réalisateurs, je pense. C'est ce que faisait Strehler, c'est ce que fait Alfredo Arias, par exemple, ou ce que fait même Jérôme Deschamps dans son travail, ou même c'est ce que faisait Vitesse. Antoine Vitesse, il partait toujours du cliché même. Moi, le cliché me passionne, et puis après, on le déforme, on le réinterprète, etc. Mais toujours partir de l'œuvre, oui, pour moi, c'est important. Et puis, je trouve que parfois, la forme, je n'arrive pas à séparer la forme du fond. C'est tout ça est très imbriqué. Et même parfois, la forme m'aide à trouver le fond. Et parfois, moi, un costume ou une image ou une attitude ou un geste m'aide à trouver la profondeur ou la vérité de la situation.
Et puis, dans vos décors, vous n'avez pas peur, dans vos productions, mises en scène, des toiles peintes, de ce qui est le théâtre. Enfin, c'est quelque chose avec quoi vous jouez beaucoup.
J'aime bien dire qu'on est au théâtre, en fait. Oui. Mais ça, c'est ce que faisait Jean Genet. Non, mais il voulait toujours qu'on rappelle qu'on est... Et en même temps, je me dis, en fait, que Brecht, ça devrait être joué comme ça. Brecht, il voulait qu'on avoue qu'on est...
C'est la vraie distanciation,
voilà.
Là.
Et souvent, on n'a pas compris ça, ou on l'a mal monté, etc. Et plus ça va, je me dis, plus je devrais monter du Brecht, en fait.
Alors, généralement, les metteurs en scène commencent par le cercle de Craig Ocasio. Vous pourrez peut-être, dans quelques années, vous y mettre.
Je suis plus, pas celle-là, oui, j'imagine. Plus attiré par Mercourage. Et puis, j'aime beaucoup la période de jeunesse aussi, qui est très dadaïste, d'ailleurs. Baal, La Jungle des Villes, tout ça.
Ah oui, La Jungle des Villes, c'est autre chose.
Et ce qui est beau dans Mercourage, c'est que c'est pas du tout moral comme pièce, quoi.
Oui, loin s'en faut. Mais puisqu'on parle d'esthétique, vous êtes un visiteur de musée, vous vous intéressez à l'art de votre temps, quel rapport vous avez à l'art ?
Moi, je suis très très curieux et très ouvert, et je vais tout voir et je m'intéresse à tout. Après, si les choses m'ennuient, j'y retourne pas. Ça, je laisse une chance, mais après, c'est pareil au cinéma et au théâtre et à l'opéra. Évidemment, c'est très important. Moi, j'ai du mal à aller dans les musées parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde, donc... Je me renseigne, ou alors je vais souvent dans les musées en province, où il y a moins de monde qu'à Paris. À Paris, les expositions, c'est terrible. Mais en effet, c'est très important. Justement, dans le Misanthrope, il y avait une toile de Jérôme Bosch, Les Enfers, qui était déformée, évidemment. Mais pour moi, ça m'aide à jouer, de regarder certains tableaux dans les attitudes. Et puis, je suis attiré par des choses très différentes. Ça peut être, il y a certains dessins... ce qu'on appelle les dessins érotiques de Picasso qui m'inspirent, qui sont carrément des dessins pornographiques pour moi, mais on dit érotique parce que ça fait plus chic.
Parce que c'est
fait.
Picasso.
C'est scandaleux, c'est un scandale. Et je sais que je suis allé à Strasbourg, au musée de Strasbourg, et j'ai été bouleversé par une toile qui s'appelle La Vierge Consolatrice, d'un peintre qui s'appelle William Bouguereau.
Bouguereau.
Ouais. Qui a peint notamment le plafond de l'opéra de Bordeaux. Ça, je savais pas. Et il y a des tableaux de lui aussi au musée d'Orsay. Mais il y a un tableau où je suis resté. C'est ridicule, mais je le dis parce que c'est vrai. Je suis resté en larmes devant ce tableau à Strasbourg. D'ailleurs, je vais retourner jouer à Strasbourg au spectacle de Jean-Michel Ribes. Je retournerai voir ce tableau. Et la Vierge Consolatrice, c'est qui est un tableau très très violent où il y a une femme qui supplie la Vierge et elle a un bébé mort à ses pieds. Enfin, c'est un truc terrible. Et en fait, j'en ai parlé à des peintres et ils m'ont dit mais oulala, c'est un peintre très très ringard. Pompier, totalement décrié, enfin... Mais il y a des attitudes physiques magnifiques dans ces tableaux.
Mais c'est quoi, c'est
une sorte énormément.
Oui, très grosse production, mais c'est une sorte de syndrome de Stendhal, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le tableau qui vous saisit, qui vous sidère.
C'est tout, c'est le visage de la Vierge, l'attitude de la femme qui supplie la Vierge, la femme qui est à moitié nue, le bébé qui est nu, enfin... Il y a quelque chose à la fois de baroque et en même temps, on est au 19e siècle. Il y a une théâtralité, en même temps, il y a quelque chose de morbide et en même temps, il y a quelque chose de mystique. Enfin, voilà, c'est tout ça qui me plaît.
Bon, ben, tout ça à Strasbourg, alors. Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant à Marines, avec un S à la fin, dans le Val d'Oise, chez le couple de collectionneurs Françoise et Jean-Philippe Bilaran, qui présentent une nouvelle exposition dans leur silo. Si nous introduisons cette séquence avec Épitaphe de Philippe Manoury, c'est parce que les Bilaran, en tentant de collectionner l'art de leur temps, ont aussi mécéné des compositeurs, parmi lesquels Philippe Manoury, donc commandé des pièces musicales à différents compositeurs. Mais pour raconter notre vie qui passionne nos éditeurs, il faut raconter que samedi midi, nous sommes retrouvés place de la Concorde à Paris pour prendre place dans un petit minibus direction Marine, à la découverte du silo, ce lieu d'une surface d'exposition de 2200 mètres carrés, ancien silo à grains, donc en béton, dont la rénovation avait été dans un premier temps conçue par Dominique Perrault et rendue effective par un autre architecte, Xavier Prédigne. Une centaine d'œuvres collectionnées par le couple attendent les visiteurs qui le souhaitent. On va commencer par là, il suffit de prendre rendez-vous avec les Bilaran. On envoie un mail à silo@bilaran.com et voilà, ils sont là, ils font des visites au moins une fois, voire deux par semaine. Bon, ils attendent qu'il y ait 5-6 personnes peut-être au minimum pour donner ce rendez-vous et faire la visite. Est-ce que nous avons fait ensemble, Frédéric Bonnet, vous découvriez, vous aussi, on a découvert tous les trois en même temps ce lieu dont on entendait parler depuis un certain temps déjà.
Oui, je connaissais les Bilaran parce que ça fait 40 ans qu'ils explorent galeries-musées. Moi, ça fait pas 40 ans, mais depuis que j'explore galeries et musées, je les ai quand même croisés à plusieurs reprises. C'est un couple d'amateurs passionnés qui achètent de l'art minimal et conceptuel. Ça, c'est leur ligne depuis 1975 qui ont constitué une collection assez considérable. En nombre peut-être, mais surtout en qualité. Ils ont ouvert en 2011 ou 2012, je ne sais plus, ce silo, donc qui est un ancien silo à grains qu'ils ont transformé, réhabilité pour pouvoir y installer, y présenter une partie de leur collection avec des accrochages qui tournent. Maintenant, je crois qu'ils veulent faire un accrochage par an. Forcé de constater que y a une cohérence dans cette collection qui est assez magistrale, que la visite est tout bonnement effectivement enthousiasmante. Je crois qu'on a tous été très 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 heureux d'aller visiter cet endroit. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la qualité véritablement de l'accrochage, parce que des belles œuvres, ça ne fait pas tout. Là, il y a des belles œuvres, mais elles sont remarquablement accrochées. Et quand on dit art minimal et conceptuel, on pourrait se dire tout de suite, oh, ça va être très chiant, ça va être tout au carré. Alors oui, c'est carré, il y a de l'angle droit, hein, ça c'est sûr, il y a de la ligne et de l'angle droit. Mais l'accrochage n'est en rien rigide. Voilà. L'accrochage n'est en rien rigide, alors qu'il aurait pu l'être. Et on va pas égrainer les noms, mais
on retrouve Carl André.
Oui, on retrouve déjà Carl André avec des pièces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des collectionneurs qui n'achètent pas une seule œuvre d'un artiste, mais qui constituent des ensembles.
Ils sont pas là pour cocher des cases dans leur collection, hein.
Exactement.
Quand ils aiment, ils aiment.
Qui constituent des ensembles. Alors, s'ils ont tous les noms historiques qui comptent dans la discipline, Alan Charlton, Carl André, Sol Lewitt, Daniel Buren, Neil Toroni, bon, j'en passe. Ils achètent aussi des artistes beaucoup plus jeunes, tout en ayant bien conscience que c'est compliqué de quand on a un tel point de vue et une telle focalisation sur un courant d'aller vers de l'art encore en train de se faire par des artistes plus jeunes. Et tout ça, c'est très méritoire, d'autant que ils se tournent quand même plutôt vers des artistes intéressants, parce qu'on y trouve Mario Garcia Torres, on y trouve
Philippe de Croza,
on y trouve Syl Floyer. Moi, je dois dire le seul artiste que j'ai pas aimé dans le lot, c'est un artiste allemand qui s'appelle Jan Kamerling. Il y a deux œuvres accrochées dans l'exposition qui m'ont pas du tout convaincu. Je trouvais que c'était des formes un peu vues et revues. Hormis ça,
c'est peu par rapport à l'ensemble.
Peu par rapport à l'ensemble, et tout le reste est absolument impeccable.
Et puis des artistes aussi qu'on voit moins aujourd'hui. Moi, je pense à Michel Verjux ou à Cécile Barre. On voit pas assez, qui sont pour moi des artistes tout à fait majeurs de notre temps. Je disais des courbes aussi parce que Bertrand Lavier en apporte, parce que c'est il y a trois ou quatre pièces issues de son travail sur Walt Disney et sur la 4, merci, sur cette fameuse bande dessinée de Mickey au Musée d'Art Moderne et Contemporain. Et donc Bertrand Lavier a réalisé les œuvres que Mickey voit dans les salles, hein, fruit de l'imagination des studios Disney. Et puis courbe aussi du très regretté François Morlet, très présent dans cette collection des Binaran, avec des œuvres toujours impeccables, c'est François Morlet, donc il n'y a rien à dire, mais il y en a de différentes sortes, vraiment. Il y a des néons, bien sûr, des dessins aussi. Quand on parle d'ensemble, il y a de vrais ensembles pour les différents artistes, Yasmine aussi.
Écoutez, moi, je vais encore sortir une énormité.
Allez-y.
Nos auditeurs ne sont plus assez prêts avec moi. C'est vrai que moi, l'art conceptuel minimal, c'est vraiment ce qui me parle le moins.
Eh ben, on n'aurait pas dit samedi.
Et ça me laisse de marbre. Et là, c'est, par exemple, une progression de Donald Judd. C'est juste pour moi, c'est un truc que je comprends pas. Ça me laisse vraiment très froide. Mais une progression de Donald Judd expliquée par les Billarons et présentée dans cet accrochage, tout d'un coup, ça prend une force. Ça a une présence pour moi. Tout d'un coup, ça me parle. Et ce qui a été fantastique dans cette visite, c'est de la faire. Et ce que nos auditeurs vont tous pouvoir faire en y allant, c'est de faire cette visite avec ces deux collectionneurs. Parce que parler avec eux, c'est toucher, mais vraiment du doigt, arriver à trouver l'essence même de ce que c'est qu'une collection. C'est des gens qui l'expliquent de manière très très simple, accessible à tous, qui expliquent aussi leur goût pour cet art-là, qui pour eux est un art qui parle de l'art, qui remet en cause la peinture, qui remet en cause la sculpture. Ils expliquent comment ils sont partis au début. Ils voulaient juste comprendre l'art de leur époque, mais ils n'avaient pas, ils n'y connaissaient rien. Donc, ils ont commencé par aller dans des galeries, acheter d'abord du post-impressionnisme, enfin des paysages de neige.
Et ils puis, petit à petit, ils disent eux-mêmes qu'ils ont commencé par acheter des croûtes.
Hein, voilà, ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils ont commencé par acheter des croûtes, et puis petit à petit, au contact des galeristes. Et puis, ils ont fait ce qu'il faut oser faire. Et ils ont raison de le répéter. Et j'espère que les auditeurs qui feront comme eux ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont osé poser des questions, ils ont osé demander qu'on leur explique, ils sont devenus amis avec les artistes qu'ils ont collectionnés. Et effectivement, la force de leur collection, outre les grands noms, bien sûr, c'est surtout la manière dont ils l'accrochent et la manière dont ils la font parler, dont ils mettent les œuvres en rapport les unes avec les autres, et comment chaque œuvre, tout d'un coup, il y a un dialogue absolument fabuleux, notamment avec Malevitch, qu'on revoit souvent. Moi, rentrer dans ce silo et être tout de suite voir les carrés, l'hommage à Malevitch de Richard Serra, qui sont deux carrés qui tiennent en équilibre sur la tranche qui pèse une tonne, hein. On se demande comment ça tient, et c'est d'une délicatesse, avec en même temps le carré de Véronique Joumard, les cubes en graphite de Carl André qui renvoient eux-mêmes, c'est tous des renvois comme ça. Alors ce silo, il était fait de 13, je ne sais plus combien de cellules.
Chiffre pair, forcément.
Oui, ça ne peut pas être 13.
Non, ça ne peut pas être 13.
Mais ça, bon. C'est mon rapport aux mathématiques.
Bon, allez, 12 ou 14.
Voilà, mais en tout cas, il y a ces silos et chaque, il y a ces cellules et chaque cellule, en fait, permet l'accrochage de plusieurs œuvres.
Ouais, en plus, d'un avec même un artiste, deuxième hein, niveau qui a été conçu dans
avec
le
silo. Avec un deuxième niveau. Il y a le bonheur de retrouver, bon, parce que je dis que je supporte pas l'art minimal conceptuel, mais Verjuc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a quelques pièces.
Le travail d'éclairage.
Voilà, hein, le travail d'éclairage.
De projecteur, de lumière, qui dessine les espaces.
Il y a un
espaces.
Hommage à Barnett Newman qui est ouais. très simple et qui est
comme
là.
Une
il y a
colonne de lumière.
Oui, ouais. il y a, moi j'appelle ça le puits. De Verjus, c'est-à-dire que c'est un cube, enfin oui,
un piédestal
et éclairé comme une douche, vraiment par en haut.
Et qui dépasse et on a un peu.
Voilà, et on a l'impression que c'est un puits. En fait, non, c'est une surface plane et c'est la lumière qui donne ça. Il y a des choses, des toutes petites choses qui, comme ils disent eux-mêmes, l'inframince. Ces œuvres, ces deux traits de lumière au sol de Seal Flower. On a l'impression que c'est de la lumière qui vient de l'arrière. En fait, c'est juste une projection comme ça de lumière toute simple. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur aussi pour coup de foudre même pour les deux tableaux de Gunther Humberg que je connaissais pas du tout et son carré de pigments bleus, un carré qui presque, enfin on peut toucher le bleu du, on a l'impression de pouvoir toucher ce bleu du doigt et qu'en même temps il vous échappe quoi. C'est entre le velours et l'immatériel, enfin il est absolument sublime et c'est vraiment, c'est faire la visite avec eux, c'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur de les entendre parler et de tout d'un coup, à travers leur collection, à travers leur amour pour cet art-là, mais me le faire aimer à moi aussi.
Oui, parce que ce qui compte, c'est qu'ils partagent. Oui. Ce sont des collectionneurs qui partagent, qui donnent à voir.
Et le simple fait qu'ils fassent eux-mêmes la visite.
Ah oui, et puis c'est toujours eux. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas que ce soit quelqu'un d'autre qui...
C'était très touchant, par exemple. On voit que c'est des gens qui veulent toujours apprendre. C'est comme ça que j'ai appris que vous aviez fait une thèse ou un mémoire de maîtrise sur Philippe Thomas. Et Monsieur Villarand disait, mais alors il faut me l'envoyer, c'est mais vraiment on aurait dit, c'était vraiment le plaisir du gamin qui veut apprendre, qui veut découvrir. C'était très très beau aussi de voir des choses comme ça.
Frédéric Bonnet, un mot encore.
Oui, ce qui est intéressant dans la manière dont ils accrochent et dans leur choix aussi, j'ai trouvé, c'est que on a assez facilement tendance à imaginer que l'art minimal ou l'art conceptuel égale répétition. Oui, ça égale répétition parce qu'il y a beaucoup d'œuvres modulaires et répétitives, mais chez eux, l'accrochage est tellement finement pensé que la répétition, c'est de la variété. La répétition n'est jamais la même, et ça, c'est assez formidable. Et encore une fois, le fait d'avoir constitué des ensembles d'artistes aide à le montrer, et avant de venir, j'ai feuilleté le catalogue de l'accrochage précédent que je n'avais pas vu, et on voit encore une quantité d'œuvres, des Morlaix, alors je ne sais pas combien ils ont de Morlaix, mais alors c'est considérable nombre de Morlaix qui
est là. C'est une sculpture qui est là, demeure qui nous accueille, hein, de François Morlaix d'ailleurs.
Oui, et effectivement, on voit que sérialité et répétition, ça ne veut pas dire ennui, mais c'est de la variété.
Au contraire. Donc, visite gratuite sur rendez-vous du Silo à Marine, dans le Val-d'Oise, c'est la collection des Bilarand. L'adresse mail précise, hein, c'est lesilo@bilarand.com, le Silo, L-E-S-I-L-O, @bilarand, BILARANT.com. On mettra bien sûr tout cela sur notre site internet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Concluons avec le jeu de la dispute. Antoine Guillot, retour sur le jeu d'hier au soir d'abord.
Vous avez gagné des invitations pour le spectacle Ajax Cabaret de Wajdi Mouawad au Théâtre National de Chaillot. Wajdi Mouawad, j'ai été donc l'auteur d'une tétralogie. Quels sont les titres de cette tétralogie? C'était Littoral, Incendie, Forêt et Ciel.
Très bien. Ce soir, nous gagnons des places de cinéma pour le film John From de Jean Nicolao, dont on a parlé hier, qui est sorti aujourd'hui. La question est...
Dans L'épée et la rose, le premier long métrage de Jean Nicolao, le réalisateur raconte l'histoire de Manuel, parti au large à bord d'une caravelle du 15e siècle. Comment s'appelle-t-elle, cette caravelle?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Yasmine Youssi, Frédéric Bonnet, Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Marie Aubert, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son ce soir, Julien Doumain, réalisation Daniel Finot. On se retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique avec Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Lire, l'opéra d'Aribert Reimann à l'affiche de l'Opéra de Paris. Un coffret 3 CD de Wanda Landowska consacré à Mozart et Haydn. Et puis nous parlerons de la 4e édition du festival Palazzetto Bruzane à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre des Bouffes du Nord. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une revue de presse culturelle, les choix du comédien et metteur en scène Michel Fon, invité de la dispute, et un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, hors champ par Laura Adler, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.